voyage dans le grand rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Et en rappel, nous parlerons ce soir dans le grand rendez-vous de la présence controversée militaire française dans le Sahel après la vive polémique accentuée par des frappes dans un village du centre du Mali. Je vous invite dans l'immédiat à écouter notre invité décryptage. Le gouvernement du Burundi donne sa position sur l'inhumation à Bamako plutôt que dans son pays du défunt président burundais Pierre Buyoya, par ailleurs haut représentant de la mission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, Misael.
Dans le grand rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Willy Nyamitwe, bonjour.
Bonjour.
Chef de bureau chargé de l'information et de communication à la présidence burundaise. Le défunt président burundais Pierre Buyoya a été inhumé au Mali, hors de son pays, sans honneur et presque dans l'anonymat. Pourquoi les autorités burundaises lui ont refusé des obsèques dignes ?
Je pense que la question a été longuement discutée. C'est la famille qui a décidé de l'inhumer au Mali. Sinon, les autorités burundaises ont bel et bien dit, y compris le chef de l'État, que le défunt major Pierre Buyoya avait le droit d'être inhumé au pays, au Burundi, sans aucune restriction.
Donc, vous dites que la famille n'a pas fait de démarche nécessaire auprès des autorités burundaises pour que l'ancien président soit inhumé dans son pays ?
La famille a reçu le message. Elle a su que les autorités burundaises n'avaient aucune objection. Major Pierre Buyoya soit inhumé au Burundi. Mais pour des raisons connues par la famille, la famille a décidé d'inhumer Pierre Buyoya au Mali.
Quand vous parlez des raisons connues de la famille, vous faites allusion à sa condamnation par contumace ?
Non, je pense que c'est la famille a décidé de l'inhumer au Mali pour des raisons pratiques, certainement. Mais la famille a fait savoir que ce n'était qu'une inhumation provisoire. Donc, le major Pierre Buyoya a été provisoirement inhumé au Mali, parce que la famille a l'intention de l'inhumer au Burundi.
Et s'il n'y avait donc aucune objection à ce que l'ancien président soit inhumé dans son pays, pourquoi les autorités n'ont pas été représentées à Bamako ?
Mais ce n'était pas des obsèques dignes d'un ancien chef d'État, parce qu'il était encore sous condamnation et il était sous mandat d'arrêt international. Donc, il n'avait pas droit aux obsèques dignes d'un ancien chef d'État. Il a été dignement enterré par la famille et sa famille et ses amis étaient présents. Il n'y avait aucune objection de la part des autorités burundaises qui avaient apporté toute assistance à la famille au cas où elle voulait l'inhumer au Burundi.
Donc, le défunt président Pierre Buyoya aura droit aux obsèques officielles organisé par les autorités burundaises ?
Non, je n'ai pas parlé d'obsèques officielles. J'ai dit que la famille peut procéder à l'inhumation du défunt major Pierre Buyoya au Burundi, pas par les autorités burundaises. Hein. Non, les autorités ne sont pas impliquées et ne s'impliqueront pas dans l'inhumation du défunt major Pierre Buyoya. Le major Buyoya était malheureusement sous mandat d'arrêt international et aussi il avait été condamné
à perpétuité dans le cadre de l'assassinat de son prédécesseur Melchior Ndadaye, voilà. Qu'il a toujours nié.
Bien entendu, alors le dossier était toujours pendant, mais il avait déjà été condamné et avait interjeté appel. De toutes les façons, la condamnation était là et le mandat d'arrêt avait été...
Il a toujours nié toute implication dans cette affaire.
Alors, je n'entrerai pas dans un débat juridique ou judiciaire. Donc, de toutes les façons, les faits sont têtus, ils sont là. Le président de la République, lors d'une émission publique, il a bien annoncé que c'était son droit le plus absolu d'être inhumé auprès des siens, auprès de ses aïeux au Burundi.
Est-ce que le rapatriement du corps dans un avenir proche du défunt président est à l'ordre du jour ?
Vous pouvez poser la question à la famille. Je pense ne pas détenir suffisamment d'informations à ce propos, mais c'est la famille qui sait quand elle prévoit de rapatrier le corps du défunt Major Pierre Buyoya au Burundi.
Son épouse et ses enfants peuvent-ils rentrer au Burundi sans être inquiétés?
Mais bien sûr, ils ne sont pas sous le coup des mandats d'arrêt, ils ne sont pas condamnés. Je pense que ils ont toujours été au Burundi. Il y a des membres de sa famille qui viennent, qui partent, et d'autres qui sont encore sur le sol burundais. C'est le Major Pierre Buyoya qui était recherché par la justice et non pas toute sa famille.
Pourquoi les relations entre le défunt président Pierre Nkurunziza puis son successeur Évariste Ndayishimiye étaient tendues avec l'ancien et défunt président Pierre Buyoya? Certains Burundais s'en étonnent, affirmant que cela n'a pas toujours été le cas.
On ne peut pas parler de relations tendues, de relations individuelles tendues. Non, c'est que les relations entre le président de la République en exercice et les anciens chefs d'État ont toujours été bonnes, que ce soit le major Pierre Buyoya, que ce soit Ndayizeye Domitien ou Sylvestre Ndibantou Gagna ou l'ancien président Jean-Baptiste Bagaza. Les relations ont toujours été bonnes, mais aucun de ceux que je viens de mentionner n'a été sous mandat d'arrêt ou condamné.
Merci à vous.
Merci.
Voilà, c'était Willy Nyamitwe, chef du bureau communication et information de la présidence burundaise.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Et nos invités sont déjà en ligne pour parler de la présence militaire française dans le Sahel après la polémique accentuée par des frappes dans un village du centre du Mali. C'était dimanche dernier. Docteur Ali Tunkara est directeur du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel. Bonsoir, docteur Tunkara.
Bonsoir.
Vous êtes en ligne de Bamako. Je souligne que vous êtes également auteur de l'ouvrage Mali, analyse socio-historique des conflits. Emmanuel Dupuis, soyez le bienvenu. Monsieur Dupuis, vous êtes là?
Oui, bonjour.
Bonjour, consultant en défense, sécurité et armement, par ailleurs président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Mohamed Lamine Gassama, référent de LRM, la République en marche du 20e arrondissement de Paris, est également avec nous. Bonsoir, monsieur Gassama.
Bonsoir à tous, bonsoir à tous les auditeurs.
Et nous accueillons de Niamey Dibril Abarchi, enseignant-chercheur en sciences politiques et juridiques à l'université Abdou Moumouni à Niamey. Bonsoir, monsieur Abarchi.
Bonsoir.
Bienvenue, messieurs. Je vais d'abord commencer par donner la parole à qui veut la prendre sur cette question. Y a-t-il de nouveaux éléments sur le dossier en dehors de deux versions que nous avons mentionnées et relayées en début d'émission? Messieurs, peut-être par vous, monsieur Tunkara, qui est à Bamako.
Alors, concrètement, ce dossier reste quand même toujours flou. Lorsqu'on écoute les différentes parties qui seraient soupçonnées d'être à l'origine de ces différentes attaques, malheureusement, jusqu'ici, sommes-nous au cœur de confusions. Mais ce qui est clair à ce stade, quand même, après avoir échangé un peu avec certains habitants de la dite localité, les dernières infos font état d'une frappe qui a eu lieu à des heures indues. Donc, on ne peut pas établir un lien facto entre le cortège à la suite des mariages et les actions terroristes. Un cortège, c'est quand même pas à des heures aussi tardives. Mais dans le même temps, quand on lit un peu la réaction du gouvernement malien cet après-midi, qui laisse entendre que la localité en question, elle non seulement proie à ces attaques terroristes, mais dans le même temps, elle abrite un nombre important de groupes terroristes qui seraient actifs dans les centres du pays. Donc, en somme, les deux versions, qu'elles soient françaises ou maliennes, laissent entendre que les victimes sont bel et bien du terrorisme.
Est-ce qu'il est possible aujourd'hui, Dipril Abarchi, vous qui êtes enseignant en sciences politiques et juridiques, et qui êtes au Niger, un pays récemment touché, on va dire d'ailleurs en début d'année, par l'attaque terroriste, est-ce que vous en savez plus que ce que vient de nous dire M. Tunkara ? Sur ce qui se serait réellement passé dans ce village.
Ah, en ce qui concerne le Niger, vous voulez dire ?
Oui, non, je suppose que vous suivez aussi tout le Sahel, y compris le Mali. Ce qui s'y passe.
Oui, bon, ça, on a des nouvelles à travers les chaînes internationales, comme RFI. Sinon, on n'a pas d'autres canaux d'information sur ce qui se passe au Mali.
Est-ce que quand cela se passe au Niger, les informations sont plus précises, il est plus facile d'avoir de bonnes informations indépendantes sur ce type d'opération ?
Vous savez que même pour ce qui se passe au Niger, souvent c'est sur les radios internationales comme RFI qu'on commence d'abord à avoir l'information avant qu'elle ne soit relayée par les radios locales.
Ça parce que les autorités locales ne communiquent pas, y compris les forces armées nigériennes.
Bon, en tout cas, pour ce qui est de la dernière attaque, je crois que c'est 24 heures après que RFI ait annoncé cela sur ses antennes que les radios locales ont annoncé l'information.
Mais qu'en est-il très rapidement de l'attitude des autorités elles-mêmes ? Parce qu'il y a un reproche qui est fait au bon. On me fait signe qu'on a perdu M. Dibril Abarchi du Niger. Je souhaitais, M. Dupuis et Gassama, qu'on entende d'abord nos invités qui sont sur place là-bas au Mali. Non pas que vous soyez moins qualifiés hein, pour peut-être en savoir plus qu'eux. Emmanuel Dupuis, vous êtes là ?
Oui, je vous entends.
Quel est le regard que vous jetez sur cet état de lieu ? C'est-à-dire, il y a deux versions qui divergent, on ne sait pas laquelle est la bonne, et quand on écoute même les experts sur place, il est tout à fait difficile de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé dans cette localité.
Écoutez, moi j'ai les deux versions, hein, à la fois le communiqué de l'armée française qui précise que la frappe était une frappe aérienne, donc les victimes qui ont été prises en charge par Médecins Sans Frontières, la deuxième version, précise qu'elle a accueilli un certain nombre de blessés graves par balle. Donc il est particulièrement difficile de ne pas penser qu'il y a bien deux frappes et non pas une frappe sur une seule localité. Du reste, les deux localités en question, le village de Bounti et le village de Kikara, sont éloignés de 15 kilomètres. Ça fait beaucoup quand même pour l'impact d'une bombe. J'en veux pour preuve que le communiqué des forces armées françaises précise bien qu'il ne s'agissait pas d'un raid d'hélicoptère. Beaucoup de versions ont parlé d'une frappe venue d'hélicoptère, mais bien d'une frappe venue d'un mirage. Donc ça, c'est la version officielle française. L'autre version officielle, je n'ai pas la version malienne, car du reste, les autorités de la transition n'ont pas beaucoup
Elles ont en quelque sorte endossé la version française.
Elles ont endossé la version française, mais pour ne pas dire quelle est leur propre version, alors qu'elles se sont rendues sur place.
Attendez, est-ce que quand vous dites qu'elles sont rendues sur place, mais on a eu d'autres experts qui soulignent que l'armée, les FAMA, les forces armées maliennes ne sont pas en mesure de dire quoi que ce soit, parce qu'en réalité, elles ne sont même pas peut-être au courant de ces opérations françaises.
Alors, ça, c'est une autre question. Il est effectivement particulièrement important de rappeler que les opérations qui sont menées dans cette région sont avant tout menées par les militaires français en relation avec leurs partenaires internationaux, en l'occurrence avec la MINUSMA, et que parfois, il est vrai, vous avez raison de mentionner que les FAMA n'y sont pas associées pour une raison simple, c'est que parfois, elles ne sont pas présentes dans les zones où opèrent les forces françaises. Ça, c'est un premier élément. Deuxièmement, par rapport à cette question précise, évidemment que c'est une question qui est liée à l'actualité des heures précédentes où un certain nombre de militaires français avaient été tués. On avait fait le lien entre les deux et pourtant la zone ne se situe pas du tout dans le voisinage. Donc vous voyez que parfois, et j'en reviens à ce que disait un de mes prédécesseurs, les chaînes d'information françaises deviennent la source d'informations même pour les personnes locales. Or, ces chaînes d'information françaises ne sont elles-mêmes pas sur place. Donc, c'est un vrai problème pour faire en sorte que non seulement l'État reviennent dans ces régions, mais que l'information puisse circuler le plus librement Merci. Possible. Mais c'est vrai que dans les opérations extérieures, c'est un petit peu compliqué.
Merci. Mohamed Lamine Gassama, vous m'entendez ? Quelle est votre analyse de ce flou qui règne autour de cette opération militaire française, on va dire française, parce que les sources maliennes ont indiqué, ou l'armée malienne a indiqué, n'être pas intervenue dans la région ces derniers jours?
Oui, ben, comme toujours dans ce genre d'opération, quand il y a comme ça un doute, ce qu'il faut, c'est de mener déjà une enquête sur les faits, sur ce qui s'est passé, avoir la chaîne de commandement et de pouvoir justement avoir une lisibilité sur tout
ce qui s'est passé. Et qui doit conduire l'enquête pour qu'elle soit la plus indépendante possible?
Et comme on dit, il y a des autorités maliennes, et ça s'est déroulé sur le sol malien, donc à un moment donné, les autorités maliennes doivent pouvoir mener cette enquête-là. On appuie avec...
Pardonnez-moi de vous interrompre encore, elles qui ne sont parfois pas au courant des opérations, M. Dupuis vient de le dire, ou qui ne sont pas du tout associées. Comment peuvent-elles... peut-elle mener une enquête sur un territoire un espace où il n'a pas été et qu'il ne sait même pas comment ces opérations se sont déroulées?
C'est son territoire. Vous savez, c'est un territoire souverain. Et effectivement, bon, on sait qu'ils sont dans une transition politique qui est assez compliquée. Mais c'est à l'État malien, à un moment donné, de effectivement prendre en compte ce qui s'est passé sur son territoire et de mettre les moyens judiciaires, ou en tout cas d'enquête pour pouvoir élucider ce qui s'est réellement passé en coordination, si j'ose dire, avec l'armée française. Donc il faut vraiment y aller de façon sérieusement, très sérieusement, et ne pas justement être dans le flou, comme l'ont dit mes prédécesseurs, parce que à un moment donné on parle de vie Merci. Humaine, et il faut savoir ce qui s'est réellement passé. Donc c'est aux autorités maliennes, avec les personnes qui peuvent justement élucider tout cela, de faire ce travail-là.
Merci, M. Gassama. Docteur Ali Tunkara, cette souveraineté, parlons-en, M. Gassama vient de l'évoquer. Est-ce que vous avez le sentiment que l'armée malienne, les FAMA, opèrent main dans la main réellement avec l'opération Barkhane? Est-ce que c'est vraiment ce qui se passe sur son territoire?
Alors, pas à tout bout de champ. C'est vrai qu'il y a un semblant... On peut parler du possible, des actions conjointes qui sont parfois menées entre avec les forces partenaires, notamment la force Barkhane française et les missions onusiennes de l'AMINUSMA, avec les éléments de forte défense de sécurité de la République du Mali. Mais malheureusement, le fond du problème réside dans cette non-coopération effective. C'est vrai que M. Dupuis a parlé de cette désertion, de cette absence aussi de l'armée malienne dans certaines parties du territoire, à ces attaques des groupes radicaux violents. Mais il y a des endroits également où l'armée est présente, mais dans lesquels endroits, malheureusement, la coopération entre les forces en présence, notamment les forces nationales et internationales, est quand même tout à fait insignifiante. De ce fait, si vous regardez un peu les différentes victoires qui sont quand même remportées par les armées partenaires, sont des victoires très souvent qui n'associent pas pleinement les armées du Sahel, en l'occurrence l'armée malienne. Donc c'est là que l'on comprend bien. Aujourd'hui, dans le contexte malien, il est tout à fait difficile de parler d'efficacité, même de la pertinence des différentes actions qui sont en cours, pour des raisons liées à cette non-effectivité de collaboration. C'est vrai, on nous vend parfois des tentatives, des actions commises qui sur l'œuvre des forces nationales et celles également des forces populaires. Mais lorsqu'on pèse à fond, j'ai eu la chance de parcourir toutes ces localités, on se rend compte que l'armée française se pointe devant un camp militaire malien en disant singulièrement, sans que les cinq éléments ne sachent comment la structure a été définie.
Merci beaucoup, Dr. Tunkara. On va marquer une pause. Merci à vous.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et avec nos experts, nous parlons de la présence de l'armée française à travers Barkhane dans le Sahel. Avec nos invités, Mohamed Lamine Gassama, référent de la République en marche à Paris, Emmanuel Dupuis, consultant en défense, sécurité et armement, Dr Ali Tunkara, directeur du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel, et Djibril Abarchi, que nous avons retrouvé, enseignant-chercheur. Monsieur Abarchi, vous m'entendez ? Allô, monsieur Abarchi ? Il semble qu'il ne soit plus en communication avec nous. Donc, je pense qu'on va oublier cette liaison avec Niamey et on va poursuivre avec les autres invités. Emmanuel Dupuis, quand vous entendez l'expert Ali Tunkara dire qu'il y a un manque de coopération, il n'y a pas vraiment de collaboration franche entre l'armée française à travers Barkhane et celle du Sahel et les armées du Sahel, est-ce que ce n'est pas ça qui peut aussi donner lieu à toutes sortes d'hypothèses et peut-être alimenter aussi ces soupçons d'agenda caché qu'on attribue à la France et à l'opération française ?
Alors déjà, pour répondre à votre question, pour savoir qui pourrait enquêter, je rappelle que la dernière résolution onusienne donne une réponse à votre question, la résolution 2531 de juin 2020, qui prolonge d'un an la mission de stabilisation onusienne dans la mission de l'ONU, parmi les 14 000 membres, 14 000 soldats et militaires et policiers, il y a évidemment 2 000 policiers. Je rappelle qu'une partie de sa mission est la protection des droits de l'homme et faire en sorte que l'État recouvre sa souveraineté. Donc c'est une partie de votre réponse, l'autre partie, c'est évidemment les ONG, Amnesty International et Human Rights Watch, ont fait des enquêtes sur les exactions des forces armées, notamment au Mali et au Niger. Et après tout, puisqu'elles se rendent sur place, tout comme le CICR dans le pays voisin du Burkina Faso, c'est aussi à eux de répondre. Maintenant, je veux répondre plus précisément à votre question. Lors du dernier sommet de Pau qui s'est déroulé en janvier dernier, dans un contexte un peu particulier, souvenons-nous le décès de 11 militaires français le 25 novembre dernier, suite à un accident engageant deux hélicoptères dans une opération donc de ratissage des groupes armés terroristes, il a été question de la mise en place d'une coordination en termes de planification opérationnelle, pour répondre évidemment à des critiques qui justifiées, marquant le fait que beaucoup d'opérations n'étaient pas suffisamment préparées en amont. Il y a une difficulté à associer les forces armées maliennes, car souvent, les opérations qui sont menées, que ce soit dans la boucle du Mali, au centre du Mali, par exemple, où cette frappe aurait, où la frappe française a été effectuée. Hein, donc, comme
pour conclure, s'il vous plaît, si vous pouvez résumer votre réponse.
Kikara, non, rapidement, juste pour dire que parfois, les opérations que nous ne les menons pas avec les forces armées maliennes, mais les menons avec des groupes alliés aux forces armées maliennes. Je pense au mouvement pour le salut de la Zawad. Nous avons lancé 5 brigades mixtes, comme leur nom l'indique, précise.
Comment vouloir être efficace et lutter efficacement contre l'insécurité dans le Sahel en mettant à l'écart, tel que vous le dites, c'est volontaire, à l'écart les armées qui sont les premières concernées par cette insécurité ?
Encore faudrait-il qu'elles existent, ces armées.
Pour vous, dans le Sahel, les armées nigériennes, burkinabées...
Attendez, est-ce qu'on parle du Mali ou est-ce qu'on parle du Niger ?
On parlait du Sahel, en gros. C'est pour ça qu'il y a un expert nigérien. On parlait du Sahel. Le prétexte, c'est cet incident du centre du Mali.
Mais alors, si on parle du Mali, parlons du Mali. Au Mali, il y a une mission qui s'appelle EUTM, dont le but est de former par bataillon, c'est-à-dire à peu près entre 600 et 700 tous les 3 mois, les forces armées, on appelle ça les forces armées maliennes reconstituées, dont l'objectif est qu'elles remontent en puissance après leur attrition, évidemment, qui a abouti à l'opération Barkhane, l'opération Serval en janvier 2013, puis l'opération Barkhane à partir d'août 2014. Vous avez raison de mentionner le fait que tous les États ne sont pas logés à la même enseigne. Le président Issoufou, qui est encore président jusqu'au deuxième tour de l'élection présidentielle au Niger, qui aura lieu le 21 février, a appelé à ce que les forces armées nigériennes soient multipliées par 4 à l'horizon 2022.
D'accord. Si je vous ai bien compris, monsieur Dupuis, vraiment en un mot, si je vous ai bien compris, il y a plusieurs...
entre les forces armées.
D'accord. Selon vous, il y a des pays du Sahel qui ont des armées structurées capables d'être associées par la force Barkhane et d'autres qui ne le sont pas.
Ben bien sûr, le Tchad consacre 22% de son budget aux questions de défense, le Niger 17%. Le budget de la défense malien a été multiplié par 4 depuis 2013. D'ailleurs, une partie des doléances qui ont abouti au coup d'état militaire du 18 août dernier précisait que les montants dont disposent les forces maliennes étaient mal utilisés.
485
millions d'euros. Et donc,
merci, monsieur Dupuis. On va écouter les autres intervenants. Djibril Abarchi, cette fois, je pense que c'est la bonne. Vous m'entendez, monsieur Abarchi?
Oui.
Alors, quand vous écoutez ces critiques...
Tout à fait.
Écoutez, voilà, je ne dirais pas ces critiques, mais les déclarations faites par monsieur Dupuis, qu'est-ce que cela vous inspire? Il explique pourquoi les armées du Sahel ne sont pas impliquées ou associées dans les opérations françaises.
Alors, précisément à propos de cette collaboration, c'est là. Oui, je vous entends très bien.
Oui, allez-y, s'il vous plaît.
Je dis que c'est précisément à propos de cette collaboration que nous nous posons beaucoup de questions. Je vous donne l'exemple de la dernière attaque qui a eu lieu au Niger, ou de toutes les attaques d'ailleurs. On a du mal à s'expliquer, et c'est la question que se posent tous les Nigériens, comment expliquer que dans une zone où l'usage des motos est interdit, comment expliquer qu'il y ait une horde de terroristes qui arrivent avec des motos et qui ne sont pas vus malgré les moyens dont disposent nos alliés, je veux dire les Français. Où sont les drones? Où sont tous les moyens de surveillance?
Le renseignement?
C'est-à-dire que ces hordes de motos qui viennent, si c'est des cibles françaises, elles allaient quand même pouvoir atteindre les cibles françaises sans être vues, parce qu'on ne comprend pas qu'elles atteignent les cibles nigériennes sans être vues et retourner à leur base, alors qu'il y a cette collaboration qui est censée aider nos armées à prévenir ces attaques. C'est ça qu'on ne comprend pas.
Merci.
Où est la collaboration en termes de renseignement, tout simplement?
Merci.
Parce que ces informations sont données à nos armées qu'il y a une horde de motos qui arrive.
D'accord. Merci, M. Abarchi. Vos préoccupations, oui. On entendra M. Tunkara, qu'est-ce qu'il en pense. Mohamed Lamine Gassama, est-ce que vous comprenez ces préoccupations des experts qui alimentent peut-être ces soupçons, je le disais tout à l'heure en posant la question à M. Dupuis, parce que Emmanuel Macron a récemment parlé du sentiment anti-français en s'en prenant en quelque sorte aux Russes, aux Turcs, qui alimenteraient cela. Mais il y a cette réalité qui est là, qui est que beaucoup d'Africains, notamment du Sahel, pensent que la coopération et le soutien de la France n'est pas sincère. Est-ce que vous comprenez ces préoccupations et ce que viennent de soulever à la fois M. Tunkara et Abarchi?
Rappelons un peu quand même pourquoi l'armée française est au Sahel. Ça a commencé avec l'opération Serval pour libérer effectivement le nord du Mali des terroristes, des djihadistes, excusez-moi. Et c'est une opération qui avait réussi. Donc le Mali n'a pas été un État entre guillemets islamique, ce que voulait mettre en place.
Mais certains à Bamako rappelleraient qu'il y a toujours cette enclave Kidal qui fait problème.
Oui, mais c'est un territoire qui est très vaste. C'est sur 5 pays. Et donc, il y a 5 000 militaires français, plus bien sûr les Européens et les Américains aussi. Il ne faut pas les oublier, ils sont aussi présents. Donc, c'est un territoire qui est très, très vaste. Effectivement, il y a tous les moyens de renseignement, mais c'est un territoire qui est tellement vaste qu'il faut vraiment déployer des moyens importants pour qu'on puisse surveiller efficacement et détecter tous ces terroristes, ces groupes islamistes, mais c'est qui sont quand même aussi très aguerris sur le terrain. Donc c'est un travail très, très minutieux et très rigoureux qui doit être mené. Donc je le rappelle, les militaires français sont là depuis donc de 2013.
Hein. Justement, mais pour quelle efficacité? C'est ça la question aujourd'hui. On est tous d'accord que la collaboration est un des problèmes que soulèvent experts et même les populations du Sahel. Est-ce que vous comprenez, c'était ça la question, est-ce que vous comprenez cette préoccupation?
On peut toujours comprendre.
C'est ce manque de coopération qui rendrait finalement inefficace l'opération française.
Bon, l'opération, elle n'est pas inefficace parce qu'il y a quand même des victoires qui sont menées. Je rappelle quand même aussi que l'armée française a perdu beaucoup de militaires dans ces opérations-là. Barkhane, c'est quand même 55 militaires qui ont été tués en opération. Donc c'est quand même un lourd tribut. Enfin, il faut pas négliger cela. Il faut aussi dire aux opinions africaines que l'armée française n'est pas une armée qui est là pour mettre sous contrôle les pays. Elle est là pour aider dans un cadre international pour que le terrorisme ne se déploie pas.
Mais comment combattre efficacement ce terrorisme et l'insécurité sur le sol africain sans associer les armées qui sont les armées de ces pays?
Comme l'a dit Emmanuel Dupuis, il y a une formation mise en place au bénéfice des militaires maliens. La seule armée en fait qui est réellement efficace et qui est constituée, c'est effectivement l'armée tchadienne qui a cette capacité de projection. Donc c'est un travail qui est de long terme. Et ça, il faut vraiment dire aux opinions africaines et notamment maliennes, parce que c'est souvent là-bas qu'il y a souvent le ressentiment. Mais il faut pas croire que l'armée française est là pour, allez, disons les mots, occuper le terrain. Elle est là pour justement défendre une certaine
occuper le
idée.
Terrain et protéger ses intérêts. C'est ce qu'on entend souvent.
C'est ce qu'on appelle aussi les fake news. Non, l'armée française est là pour défendre une certaine idée de la liberté. Il faut aussi dire les choses comme elles sont. Le terrorisme frappe partout. Il frappe au Nigeria, par exemple. Récemment, il y a eu plus d'une centaine de personnes qui ont été égorgées. Il frappe aussi au nord du Cameroun. Donc, c'est pas simplement une question entre la France et le Mali. C'est une question qui est internationale.
Merci
donc,
beaucoup, Monsieur Gassama. Merci. Le temps commence à s'égrener très vite. On va encore donner la parole en une minute, Monsieur Emmanuel Dupuis. L'autre reproche, c'est que Barkhane et les armées fonctionnent à côté des armées nationales en concurrence plutôt que de manière complémentaire. Et on pointe du doigt aussi la surmédiatisation souvent des victimes françaises et moins des victimes sahéliennes, des armées sahéliennes, comme s'il y avait une envie du côté des forces partenaires de montrer que c'est elle seule qui est capable d'assurer la sécurité dans cette région. Est-ce que vous entendez cette critique? Qu'est-ce que vous répondez?
Premièrement, vous avez raison de mentionner le fait qu'il faut constamment rappeler que 3000 soldats maliens sont morts depuis le déclenchement des opérations contre les groupes armés terroristes en 2002. Vous avez raison de rappeler que la mission de stabilisation onusienne est la plus coûteuse en vie humaine. 135 casques bleus sont décédés également. Mais effectivement, les victimes françaises sont mises en avant parce que, comme l'a expliqué mon ami Gassama, 55 militaires français sont morts, 50 en opération et 55 en tout. Mais vous avez raison de rappeler qu'il y a un vrai problème, et là-dessus je suis tout à fait d'accord avec vous, d'une double manque de coordination, très rapidement. Le G5 Sahel avait vocation à être une force régionale. Or, qu'est-ce que le G5 Sahel ? Une coordination qui n'est pas une complémentarité, mais une juxtaposition des forces maliennes, des forces nigériennes, mauritaniennes, tchadiennes et burkinabèses. Or, quand le G5 a été créé, l'idée c'était que les forces dont disposaient un certain nombre de pays puissent aider les autres. En l'occurrence, que les troupes tchadiennes viennent dans le Litka-Kogourma. Il a fallu attendre 3 ans pour que cela soit réalisé. Souvenons-nous que le président Déby a dit que les forces tchadiennes devaient assurer la souveraineté du seul Tchad. Donc il y a effectivement un double hiatus, une coopération nécessaire à renforcer entre les forces occidentales, européennes, françaises et onusiennes avec les forces armées locales, et bien évidemment une carence de coopération entre les forces locales elles-mêmes.
Merci beaucoup, Monsieur Dupuis. On va marquer une toute courte pause et la dernière, et on reviendra dans quelques instants pour conclure cette émission avec nos invités.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
On débat ce soir la présence militaire française dans le Sahel avec Mohamed Lamine Gassama de LRM ici à Paris, Emmanuel Dupuis, consultant en défense sécurité également à Paris, Dr Ali Tunkara, directeur du Centre des études de sécurité et stratégique au Sahel, il est à Bamako au Mali, et à Niamey au Niger, Dibril Abarchi, enseignant-chercheur à Niamey. Ali Tunkara, vous êtes là? Allô? Docteur Tunkara, oui, vous m'entendez?
Voilà.
Les deux experts qui sont ici en France affirment qu'il n'y a pas véritablement d'armée dans le Sahel, à part celle tchadienne. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? L'armée malienne, les FAMA, n'existait pas en réalité d'après eux.
Non, l'analyse est nuancée. Je reconnais avec qu'effectivement l'IETM, qui est une institution européenne, qui a su des formations à l'endroit des armées africaines, mais si vous prenez l'IETM qui est brandi par les deux, vous allez vous rendre compte que chaque État membre de l'Union européenne a ses approches et ses méthodes. Donc, ça crée une sorte de cafouillage en termes d'offres de formation. Donc, c'est qui soulève clairement la question d'efficacité et pertinence des différentes formations reçues par les armées africaines. S'agissant le cas du G5 Sahel, mais passons à savoir quand même que si l'on prend les axes prioritaires, notamment défense, sécurité, gouvernance, résilience et infrastructure, vous allez vous rendre compte que tous les montants alloués à ces différents axes sont quand même détenus par la France à travers ses prestataires qui sont, si vous pouvez l'expertise en France, et entre autres. Donc, c'est pour vous dire que les armées africaines, elles ont certes besoin de cet appui de la part des armées partenaires, mais malheureusement, lequel appui met ces armées sous la touche.
Donc vous avez comme l'impression qu'il y a un manque de stratégie inclusive, cohérente et de longue durée de formation des armées du Sahel contre le terrorisme?
Incontestablement, il y a une cohérence même quant au contenu des formations qui sont dispensées ça et là. Mais dans le même temps, si vous regardez les demandes qui sont satisfaites par les partenaires, ce ne sont pas forcément les besoins exprimés par les armées africaines. Les armées africaines attendent plus à ce qu'on les dote en termes de renseignements, à ce qu'on les dote en termes de flotte. Or, au lieu de faire cela, on va plutôt envoyer des forces supplémentaires. On va plutôt créer Alliance France. Donc, pour vous dire attention.
Les réponses ne sont pas adéquates.
Non seulement les réponses ne sont pas adéquates, mais elles ne sont pas celles également exprimées comme besoin par ces armées africaines. Et surtout le fait que le peu d'argent même investi dans le G5 est quand même géré par la France en l'occurrence. Donc je crois que lorsqu'on ne va pas poser ces questions avec courage, lorsqu'on ne va pas soulever toutes ces questions avec toute la pédagogie, je crois que nous allons continuer à accuser les armées africaines.
Merci.
Tout en continuant également à croire que la France est là plutôt pour ses intérêts, non de se battre contre le groupe radical violent.
Merci. Dibril Abarchi, vous partagez cette analyse de Dr Tunkara? Allô?
Oui. Parfaitement, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, oui, je vous écoute très bien. Allô?
Oui, docteur Abarchi. Allô? Oui, allez-y, monsieur Abarchi.
Allô?
Oui, allez-y, s'il vous plaît.
Oui, donc je disais que je partage parfaitement cette analyse, d'autant plus que la réponse d'ailleurs à ma question de tout à l'heure, je ne l'ai pas eue. Comment expliquer que l'armée française qui est censée donner l'information à nos armées pour qu'elles puissent agir, parce que si je prends l'exemple du Niger, c'est quand même une armée qui est relativement bien structurée, mais qui manque de moyens et d'informations. Parce que toutes les attaques qui ont eu lieu sont des attaques qui se font par des motos, qui viennent en horde des hordes de motos, et on pense que la France est là quand même au moins pour nous dire attention, il y a un déplacement massif.
Et, finalement, quelle est la conclusion que vous tirez alors quand vous posez ces questions? Oui,
c'est qu'il n'y a pas de collaboration en réalité. C'est-à-dire l'armée française, on a l'impression qu'elle gère ce qu'elle veut gérer, et ce qu'elle veut pas gérer, elle ne gère pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un déficit de collaboration du point de vue de l'information, en tout cas pas d'action.
Merci.
Sur le terrain, non. L'information qu'il faut donner à nos armées pour qu'elles puissent prévenir certaines actions terroristes.
Donc, si j'ai bien compris, vous pensez, les experts du Sahel, qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une force de combat, une opération présente dans le Sahel comme les Barkhane?
Nos armées, nos armées devraient être au devant de la scène. Si l'armée française doit venir, c'est en guise de, en termes de complément d'information, complément de technologie. Voilà, c'est tout.
Mais est-ce que c'est cette demande-là qui est réellement formulée par les chefs d'État du Sahel? Parce que c'est ça aussi. Il faut savoir que demandent réellement les présidents des pays du Sahel à la France. Allô?
Je crois que plusieurs voies autorisées ici au Niger ont marqué. J'ai dit que plusieurs voies autorisées au Niger ont marqué ce besoin de collaboration en termes d'apport d'informations et de technologies à nos armées. Pour le reste, elles sont capables d'aller sur le terrain et affronter l'ennemi.
Merci beaucoup.
Mais ce qui est le déficit, c'est le déficit de cet apport technologique en information qui est le problème.
Merci beaucoup, M. Abachi. Emmanuel Dupuis, alors, la force du G55, vous-même vous l'avez dit, n'existe que sur du papier, elle est moribonde, sinon morte faute de financement. Barkhane qui agit seul dans le Sahel, on vient d'écouter le reproche des experts côté africain. Des armées nationales, dites-vous, faibles, sauf celle du Tchad. Quelle est finalement la solution de sortie de crise sécuritaire dans cette région du Sahel?
Vous avez raison de rappeler qu'il faut avoir à l'esprit que nous n'agissons qu'à la demande et sur les doléances et les exigences des chefs d'État africains. C'était le cas à Pau, c'était le cas à Nouakchott et ce sera le cas dans quelques semaines, à N'Djamena au Tchad. Donc ça, c'est la première raison, la première réponse à votre question. Ce sont les chefs d'État africains et leurs militaires qui formulent un certain nombre de demandes. Pour répondre précisément à mon collègue nigérien, nous sommes dans la même situation. Quand nous avons à déplorer des victimes, 5 morts la semaine dernière, nous aussi, nous manquons d'informations. Je rappelle que nous n'avons que 4 drones, dont 2 seulement sont armés, et que nous sommes fortement dépendants, et j'insiste là-dessus, sur les capacités de renseignement américains. Donc nous aussi, nous avons aussi cette difficulté de trouver les bonnes informations. Et c'est précisément pour ça qu'il faut avoir et sans doute amplifier la coopération au niveau du renseignement.
Et maintenant, quelle est donc la réponse? Il vous reste 30 secondes, M. Dupuis.
La réponse est très simple. Je vais vous dire en 3 points. Le décaissement plein et entier des sommes qui sont manquantes pour la montée en puissance du G5 Sahel. Seulement 25% des sommes promises sont mises en place. Deuxièmement, une plus grande interaction entre toutes les forces, la MINUSMA, les opérations françaises et également la participation plus forte de nos partenaires européens. C'est le cas avec l'opération Takuba. Et troisième élément, la montée en puissance d'une capacité africaine. Je ne crois pas que les forces armées africaines soient prêtes à faire face aux groupes armés terroristes. Je crois par contre qu'il faut sans doute...
Mais l'armée française n'a pas plus de résultats puisque les attaques se continuent de se multiplier.
Là-dessus, on peut voir le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Nous éliminons beaucoup de terroristes jusqu'à preuve du contraire. C'est pas une victoire militaire, n'est pas une victoire politique. Après, il faudrait rouvrir un autre débat et l'action militaire n'est pas l'action civilo-militaire.
Merci beaucoup. Un mot, Lamine Gassama, de conclusion. Est-ce qu'avec le coût de la présence militaire Barkhane, les difficultés économiques de la France avec la Covid-19, on peut peut-être assister à un retrait de la France du Sahel?
Je ne pense pas que ce soit l'objectif qui a été énoncé par le président de la République, Emmanuel Macron. Bien au contraire, l'armée française, la présence française au Sahel, elle est là pour, je le répète, pour défendre une certaine idée de la liberté.
Avant la liberté, il faut la sécurité, vous répondront vos adversaires.
C'est un corollaire. S'il n'y a pas de sécurité, s'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de sécurité. S'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de liberté. Donc, quoi qu'il arrive, on peut prendre les choses dans tous les sens. La présence, elle est là pour cela. Et en plus, regardez bien les choses, c'est sur 2 mandatures. D'abord François Hollande et ça a été continué par Emmanuel Macron. Donc, on voit bien qu'il y a une continuité de l'État français, de l'armée française, à vouloir justement préserver les populations locales de ce cancer qui s'appelle le terrorisme.
Merci.
Et donc, il faut effectivement continuer il faut renforcer les coopérations et je pense que ça sera l'objet des prochains sommets.
Merci
de
beaucoup.
Redéfinir tout cela.
Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à ce débat sur la présence controversée de l'armée française dans le Sahel avec Dr Ali Tounkara du Centre des études sécurité stratégique du Sahel à Bamako, Mohamed Lamine Gassama de la République en marche à Paris, Emmanuel Dupuis de consultant en défense, sécurité et armement à Paris, et enfin Dibril Abarchi, enseignant chercheur à Niamey. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain pour parler des États-Unis.